La Première, podcast. Jusqu'à 14h30, sur La Première.
La franc-maçonnerie avec vous, Jean Paulet, et plus particulièrement donc cette période plus restreinte de l'époque de la bataille de Waterloo.
En effet, c'est le sujet d'un livre qui vient de paraître sous un titre, il faut bien le dire, un peu énigmatique. Il s'intitule « Le sang des francs-maçons, de Valmy à Waterloo ». C'est aux éditions Racine et il est dû à la plume d'un des meilleurs historiens belges de la franc-maçonnerie, Jean Van Wyn, à qui l'on doit d'ailleurs déjà plusieurs autres ouvrages sur le même sujet.
Et qu'est-ce qui nous apprend cet ouvrage, Jean-Paul ?
Eh bien que durant la période qui va donc de la Révolution française, hein, Valmy c'est le nom d'une bataille, c'est en 1792, donc cette période qui va jusqu'à la fin du Premier Empire, Waterloo, je vous le rappelle, c'est 1815 au cas où vous l'auriez oublié, la franc-maçonnerie a donc joué un rôle considérable dans pas mal d'événements, à tel point d'ailleurs qu'on a parfois dit que ce sont des francs-maçons qui ont pu décider entre eux le sort de certaines batailles. Alors, est-ce vrai, est-ce faux ? Eh bien, c'est la première question que j'ai posée à Jean Van Wyn.
En ce qui concerne Waterloo et tout ce qui s'approche de Waterloo, c'est-à-dire l'Empire, oui, la franc-maçonnerie, certainement, était un des corps constitués de l'Empire qui n'a fait que croître et embellir et se développer pendant cette période. En ce qui concerne Valmy, il y a une légende qui est attachée à cette bataille qui met en cause trois pseudo-francs-maçons dont il a été démontré, et je le reprends dans mon bouquin tout à fait en détail avec les preuves nécessaires, il a été démontré qu'aucun des trois n'était franc-maçon. Ni Dumouriez, ni Danton, ni Le Brunswick qui se trouvait à Valmy.
Pourquoi ? On a raconté, on a dit, Jean Van Wyn, que cette bataille incertaine qui n'a fait finalement ni vainqueur ni vaincu, enfin sauf que les Prussiens et les Autrichiens se sont retirés, elle a fait relativement peu de victimes, hein, comparé à d'autres grandes batailles, notamment de l'Empire. On a dit que c'était un arrangement entre les francs-maçons. C'est faux alors ?
Ah, c'est tout à fait faux. Si on consulte les documents, comme Jean Tullard nous conseille de le faire, uniquement sur base des documents, il a été démontré très clairement par différents historiens francs-maçons, dont Charles Porcet, que jamais Dumouriez n'a appartenu à la franc-maçonnerie, que jamais Danton n'a fait partie de la franc-maçonnerie, et que le Brunswick, qui était, lui, bien présent à la bataille de Valmy, était le petit-neveu d'un grand Brunswick franc-maçon en Allemagne, mais qui était le grand maître de la stricte observance et qui n'a absolument rien à voir avec cette escarmouche de Valmy.
Alors, Jean Van Wyn, il y a une grande question qu'on se pose, qui est très classique hein, pour toute une série d'historiens depuis bien longtemps. Nous sommes à la période de la Révolution française, 1792. Ah, il y a eu la prise de la Bastille en 89. Il va y avoir 1793, la levée en masse. Enfin, tout ça est très connu par ailleurs. On dit, certaines personnes, certains milieux disent que la franc-maçonnerie a joué un rôle dans la Révolution française. Vous avez l'air quand même un petit peu sceptique.
Ah, mais je suis plus que sceptique. Je le nie avec force et vigueur, notamment dans mon ouvrage sur Sade. Mais étant donné la composition sociologique des loges de cette époque-là, c'est une impossibilité. La franc-maçonnerie n'a joué aucun rôle en tant qu'institution. Je ne dis pas que certains francs-maçons n'y ont pas été impliqués, mais à titre personnel. Mais en tant qu'institution, la franc-maçonnerie ne pouvait pas intervenir dans ce conflit. Elle était composée essentiellement d'aristocrates et de bourgeois, de grands bourgeois. Ils étaient tous très chrétiens, pour la plupart d'ailleurs catholiques, et ils n'avaient absolument aucune visée révolutionnaire et ne cherchaient certainement pas à bouleverser l'Ancien Régime. Ce qui ne veut pas dire que, à titre personnel, certains francs-maçons n'avaient pas des idées très avancées. Mais ceci est une affaire strictement individuelle.
Alors, dans votre livre, Jean Van Wyn, vous parlez beaucoup de batailles, des armées, de tout ce qui s'est passé. Et Dieu sait s'il y en a eu à cette époque, hein, des conflits. Est-ce qu'il y avait beaucoup de francs-maçons parmi les militaires ? Et d'autre part, jusqu'ici, on a parlé surtout des Français, de la Révolution. Mais d'autre part, est-ce qu'il y avait aussi des francs-maçons dans les armées mais prussienne, britannique, autrichienne, voire encore d'autres pays, russes peut-être d'ailleurs, dont on parlera tout à l'heure. Il y en avait partout, en fait.
Eh bien, il y en avait dans chacun des pays que vous venez de citer. Il y en avait absolument partout. Par exemple, en 1789, je me souviens que la France possédait déjà, à cette époque-là, près d'un millier de loges maçonniques, assorties de loges militaires, ou plus exactement de loges régimentaires, dont le colonel en général était le vénérable, c'est-à-dire le président, et qui fonctionnait dans toute la France, dans tout l'Empire, et qui fonctionnait dans tous les autres pays, y compris l'Amérique du Nord, y compris l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, la Russie, bien entendu. Les grands auteurs mentionnent souvent des scènes maçonniques dans leurs romans. Donc c'était un phénomène, c'était plus qu'une mode, c'était une immense configuration multiforme. La maçonnerie n'était pas la même dans chacun des pays, il y avait énormément de variations, mais le fondement même de ce que réalise la maçonnerie dans le monde était identique.
Voilà Jean Van Huyn, l'auteur du Sang des francs-maçons de Valmy à Waterloo, donc la franc-maçonnerie à l'époque de la Révolution française et du Premier Empire. Jean-Paul, c'est une réalité qui est assez peu connue.
En tout cas, mal connue dans le grand public. Et justement, ce qui est peut-être original avec ce livre, c'est qu'il donne en fait un sérieux coup de projecteur sur les loges militaires, donc qui à l'époque étaient très nombreuses dans l'armée française notamment, et qui avec les guerres de Napoléon vont devenir en fait un vecteur extrêmement important de la dissémination de la franc-maçonnerie dans toute l'Europe.
Elles ont fait beaucoup plus que contribuer à la diffusion de la franc-maçonnerie. Elles en ont été un élément tout à fait actif de propagation, ne fût-ce que par leur mobilité. Les loges militaires ne sont pas stationnaires, elles bougent avec le régiment ou la demi-brigade à laquelle elles sont attachées, ce qui fait qu'elles se déplacent, surtout dans le cadre de la France. La France, comme vous le savez, pendant l'Empire, s'est énormément déplacée, depuis le fin fond de l'Espagne jusqu'au fin fond de la Russie, et ils ont laissé des traces un peu partout, notamment à Bruxelles. C'est la 66e demi-brigade d'infanterie qui s'est installée en 1797 à Bruxelles et qui a fondé la loge militaire des Amis Philanthropes. Et puis, elle a dû marcher vers le nord et pénétrer en Allemagne en laissant sur place quelques bourgeois, quelques civils, si vous voulez. Et ces civils ont constitué la loge des Amis Philanthropes qui existe toujours aujourd'hui et qui est florissante.
Alors, est-ce que les militaires alors faisaient entrer des civils et inversement, il y avait une porosité, peut-on dire, entre les loges militaires et la société civile, ce qui était une manière aussi peut-être de nouer des liens, de se retrouver, de faire la fête, j'imagine.
C'est exactement cela. Il y avait une porosité. J'aime bien le mot. Il y avait des échanges perpétuels entre la société civile et les loges, qu'elles soient militaires du reste ou pas. Mais cela va beaucoup plus loin que ça. J'ai découvert en préparant ce livre dans des notes prises par les sous-officiers et les officiers qui ont participé aux campagnes napoléoniennes, j'ai découvert des choses très importantes. Par exemple, parmi les prisonniers, nous avons des loges de prisonniers français qui sont hébergés. Enfin, qui sont emprisonnés, incarcérés d'une manière ignoble d'ailleurs, dans les pontons anglais et dans des pontons espagnols, même chose. Eh bien, à l'intérieur de ces pontons, nous avons des prisonniers français qui écrivent au Grand Orient de France, qui est l'organe régulateur des loges, pour leur demander une patente pour pouvoir se constituer en loge régulière. Le Grand Orient de France le leur refuse. Il s'adresse ensuite à la Grande Loge Unie d'Angleterre, Grande Loge d'Angleterre Unie qui est unie depuis 1813, mais ils s'adressent à elle et reçoivent une patente, ce qui fait que ces prisonniers français deviennent une loge régulière de la Grande Loge Unie d'Angleterre. Je trouve ça un phénomène, il est difficile de comparer ça avec une autre situation.
Mais vous mentionnez aussi le cas inverse, c'est-à-dire des prisonniers britanniques, prisonniers des Français qui fréquentent les loges civiles ou militaires françaises. C'est difficilement compréhensible, ça.
Ils se visitent en effet les uns les autres. Ça va plus loin. La veille d'Austerlitz, ils se rencontrent les ennemis, les loges militaires des deux camps qui se font face, se rencontrent. Organisent une tenue maçonnique et se quittent en disant « à demain, nous allons nous canonner ». C'est donc un comportement, il se déroule là un comportement qui n'est pas du tout ce que l'on retrouve dans la société civile, parce que la mentalité est tout à fait autre. Ce ne sont pas des nations qui se combattent et qui essayent de se détruire, ce sont des soldats qui se battent pour le compte d'un souverain, et ces soldats sont très souvent des mercenaires qui marchent derrière un drapeau, parce que soldat, ça veut dire celui qui reçoit une solde, et il marche derrière ceux qui les payent. Mais c'est absolument tout. Il n'y a pas de conflit entre les nations. À mon sentiment, je le pense, cette notion-là apparaît avec le texte de la Marseillaise, où là, on dénote évidemment une autre dimension dans la Marseillaise, qui est déjà celle de nation et de patrie.
C'est sur ces notes de la Marseillaise que l'on écoute Jean Van Wyn, l'auteur du Sang des francs-maçons de Valmy à Waterloo. Jean-Paul, alors il y a quelque chose d'assez étonnant et qui est illustré sur la couverture de ce livre. On est en plein combat, on y voit un officier qui se rend manifestement. Hein. Il laisse tomber son épée, il lève le bras au-dessus de la tête. Et alors que les soldats ennemis sont prêts à l'embrocher à coups de baïonnette, un autre officier, l'épée à la main, s'interpose. Il lui sauve la vie. C'est assez étrange, hein. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit de ce qu'on appelle le signe de détresse des francs-maçons qui aurait permis à certains d'entre eux, militaires, d'avoir la vie sauve en se faisant reconnaître par leurs frères ennemis en pleine bataille. Alors j'avoue que c'est très étonnant et qu'on a en fait un petit peu de peine à croire que cela ait vraiment existé. Et c'est bien entendu la question suivante que j'ai posée à Jean Van Wyn.
C'est une réalité absolument attestée par d'innombrables documents. Je ne vous ai pas encore dit que j'ai retrouvé un assez grand nombre de carnets de notes qui ont été pris par les combattants de différents pays et qui ont participé aux campagnes napoléoniennes. Ce signe est d'abord connu par toutes les troupes et par toutes les nations. On le pratique, il fait partie du rituel maçonnique et il se pratique absolument dans tous les pays. Évidemment, il y a un problème de langue, c'est-à-dire que ce signe qui consiste à lever les deux bras au-dessus de la tête en reculant une jambe, et il implique que l'on prononce la phrase « à moi les enfants de la veuve ». Mais tout le monde prononce cette phrase dans sa langue, bien entendu. Mais vous comprenez bien qu'en plein milieu d'un combat, au son du canon et de la mitraille, on ne fait pas tellement attention à ce qui est dit, on fait attention à ce qui est fait. Et tous les maçons qui prennent part à ce combat savent très bien que si un adversaire se met dans cette position, la jambe droite en arrière et les deux mains jointes par-dessus la tête et prononce une phrase, il sait fort bien qu'il a affaire à un frère. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est une inversion extraordinaire de la situation, c'est que le prisonnier est pris en charge par son adversaire, qui prend même sa défense contre ses propres troupes. Et c'est ce qui figure sur la couverture de mon livre. On voit un officier français prendre en charge un officier prussien qui fait le signe de détresse, et officier prussien qui est menacé par des grognards de l'armée française.
Et alors, il y a une autre question, Jean Van Nuyn, qui se pose immédiatement. On y a fait allusion déjà dans la première partie de cet entretien. Quant aux grands de cette époque, les maréchaux, pour ce qui concerne les Français, Napoléon lui-même, Wellington, enfin tous les grands personnages militaires de cette époque, il a été dit, il y a des polémiques sans fin autour de ça, qu'ils étaient tous pratiquement francs-maçons. Vous montrez, vous y faisiez allusion tout à l'heure en parlant de Dumouriez, que c'était pas nécessairement le cas. Est-ce que, par exemple, pour les grands intervenants, par exemple Wellington, hein, le vainqueur de Waterloo, est-ce qu'on sait finalement de quoi il retourne?
On sait aujourd'hui avec énormément de précision de quoi il retourne, puisque depuis 1950 environ, la franc-maçonnerie applique à son étude les méthodes de la critique historique universitaire. Donc, on a cessé de raconter des légendes et des balivernes comme on l'avait fait auparavant. Et depuis lors, on traite l'histoire maçonnique comme l'histoire tout court. C'est-à-dire qu'on se sert de documents. Tullard dit que il s'agit de raisonner sur des documents pour faire de l'histoire. Donc, aujourd'hui, on sait avec certitude, comme les archives d'ailleurs du Grand Orient pour cette époque-là sont publiques, elles peuvent être consultées par tout chercheur, on sait très bien que qui était maçon et qui ne l'est pas. Et on sait une chose, en tout cas avec certitude, c'est que Napoléon ne l'a jamais été. Mais tous ses frères, par contre, l'étaient. Et même, ils étaient grands dignitaires du Grand Orient de France. En ce qui concerne le duc de Wellington, la question est un peu plus complexe, mais on sait aujourd'hui, après avoir beaucoup hésité et raconté différentes choses à ce sujet, on sait aujourd'hui que Wellington a été inscrit dans une loge à Trim, en Irlande, qu'il en est resté membre pendant 5 ans parce qu'on a retrouvé ses bons de cotisation et les bons de paiement. Donc on sait qu'il a payé ses cotisations pendant 5 ans. Et on sait que son père et son grand-père ont été tous les deux grands maîtres de la Grande Loge d'Irlande avant lui. Donc Wellington a baigné dans une famille maçonnique lorsqu'il était très jeune, mais il a avoué à la fin de sa vie qu'il n'avait jamais eu le temps, à son grand regret, de s'en occuper davantage.
Voilà l'historien belge Jean Van Nuyn qui vient de faire paraître Le sang des francs-maçons de Valmy à Waterloo, aux éditions Racine. Merci Jean-Paul.
À votre service.
Un séjour.